RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport, bien sûr, sur rmcsport.fr, comme tous les soirs, l'after, l'émission qui a dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, à un peu plus d'une semaine du début de la Coupe du Monde. Bah ouais, ça approche, hein, mine de rien. C'est dans, maintenant, 9 jours. Jeudi de la semaine prochaine, match d'ouverture, Russie-Arabie Saoudite, on va se régaler. Peut-être pas avec ce match, mais avec ceux qui suivront. Attention, ouais. Ils sont là ce soir, Jérôme Rotten. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Jonathan Macardy, bonsoir.
Salut les gars.
Et un fidèle de l'after, un ami de l'after, Damien Périnel, avec nous également. Damien, bonsoir.
Hello guys, what's up, how are you doing? À l'américaine.
À l'américaine. Je rappelle que Damien a fait une partie de sa carrière à New York, donc il se la raconte.
Alors, en plus, avec l'accent français, tu dois pécho à mort alors.
Pardon?
Avec l'accent français, tu dois pécho à mort.
On m'a surtout dit de garder mon accent français là-bas. Surtout pas essayer de faire
l'américain.
Ouais,
mais sauf que là, t'es rentré, donc c'est qu'il y a eu problème quand même.
Ouais, mais bon. Ouais, maintenant, les billets d'avion sont pas chers pour y retourner.
Voilà. T'es rentré, pourquoi? Tu t'es fait virer à cause de,
exactement,
de Trump ou
à cause de l'âge?
Non, moi, je pensais plus au changement d'administration politique. Voyons, ça m'aime un peu plus. Un peu plus sympa.
4 ans là-bas, t'es cramé.
Ah, tu joues là-bas. Attends, quand David Villa, il a quel âge?
Ouais, mais bon, moi, en guest. J'arrive là-bas, bien sûr, qu'il me faut un contrat.
Le contrat logique. Star, tu sais,
les internationaux, c'est ça. Et, bah ouais. Ouais. Eh ouais, mais ça, tu peux pas savoir. Mais je t'expliquerai un jour, tu vois.
T'inquiète.
Alors, messieurs, les amis de l'after, bien sûr, Jérôme veut parler expérience chez les Bleus. Damien veut parler des matchs amicaux et de la suite. Jonathan veut parler de l'Uruguay. Donc, il y a quelques jours, il nous a dit que l'Argentine, c'est super fort. Avant, il nous a dit le Pérou, c'est super fort. Donc là, il va nous dire l'Uruguay, c'est super fort.
C'est pas vrai.
Non, il va pas oser dire
j'ai
ça.
J'ai pas dit que l'Argentine c'est super fort, j'ai dit que c'était un bordel sans nom.
Oui.
T'écoutes pas quand je parle, je dis que c'est un bordel sans nom.
Mais
j'ai que la liste avec plein de potentiel.
Il peut pas nous dire que l'Uruguay est favori. Donc j'attends de savoir ce qu'il va nous dire.
tu regardes pas les matchs de toute manière.
Et puis les rendez-vous de l'after après 23h, le foot international. On ira en Russie ce soir, les Russes jouaient un match amical aujourd'hui. On va voir quel est le degré de confiance là-bas. Et puis surtout, ils ont ressorti des Cosaques pour la sécurité. Hein, donc les mecs à cheval avec des sabres. Ouais. Donc vous saurez tout à l'heure. Et puis on aura un philosophe ce soir dans l'after, messieurs, Robert Redeker, qui sort un livre intitulé « Peut-on encore aimer le football ?» Je crois que sa réponse à lui est non. Donc on verra si on peut se mettre d'accord ou pas tout à l'heure.
Quand tu as dit ça tout à l'heure, je pensais que c'était Jonathan, moi, le philosophe.
Non, c'est un demi-philosophe du Moscato Show. Tu vois,
Bon, d'ailleurs, faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein.
Ouais, mais tu utilises des mots qu'ils connaissent pas, donc ils sont impressionnés.
Ouais, ça nous impressionne, nous. Attends, on n'est pas habitués.
Ouais, mais bon, vous êtes en séance en joueur de foot, c'est normal.
Bah oui, c'est pour ça.
Et puis, on a le quiz à 23h40. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau ce soir? J'ai une belle BD qui s'appelle Rêve sur le toit du monde, qui raconte l'histoire incroyable de l'équipe de foot du Tibet. Je pense que Damien et Jérôme auraient pu être titulaires, mais ils ne sont pas tibétains. Donc, mais voilà, mais c'est une belle histoire. Ce sera dans le quiz tout à l'heure. 32-16, hashtag RMC Live, direct studio, bien sûr, on vous attend pour débattre avec nous. Puis on a un match de basket, messieurs. Demi-finale de Pro A, Le Mans-Strasbourg. C'est le troisième match de la série, Benoît Boutron.
Et le troisième quart-temps vient de se terminer. Salut les gars. Et pour l'instant, Le Mans qui domine facilement Strasbourg de 12,62-50. C'est, rappelons-le, le match 3 de cette demi-finale. Et la première équipe qui atteindra 3 victoires sera qualifiée pour la finale. Pour l'instant, il y a un partout. Mais Le Mans est bien parti pour prendre l'avantage, Gilbert.
Ah, il est bon au basket. Hein. Il est meilleur au basket qu'au foot. Hein.
Ouais, tu trouves?
Ah ouais, là c'est, on comprend tout. Quoi.
On comprend pas au foot peut-être.
Bah, des fois j'ai du mal, mais bon.
Non, mais pardonne-le, parfois Jérôme il a du mal à comprendre, hein, l'intelligence un peu limitée.
On retourne voir Benoît dans quelques minutes. Avant que Jérôme nous délivre son premier avis du soir, Emmanuel Macron était à Clairefontaine aujourd'hui, alors c'est la tradition, François Hollande y était allé aussi, Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, avait convoqué Thierry Henry après Nice pour avoir quelques explications, Valéry Giscard d'Estaing avait joué au foot pour gratter des voix, enfin, avait mal joué au foot pour gratter des voix, mais il avait été élu quand même, donc ça peut marcher. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a lancé un message macronien à l'équipe de France.
Il y a confiance en vous. Et vous, vous faites partie de ce qui aide à redonner confiance au pays. Restez unis. Restez unis. Ayez toujours le sens de l'effort, parce que c'est ce qui vous a amené là. Il n'y a rien qui a été écrit, vous n'avez pas hérité votre place en équipe de France. C'est vos efforts et les efforts de tous ceux qui ont cru en vous qui vous ont amené là. Et ayez confiance et donnez confiance. parce que c'est ça qui rend notre pays encore plus fort. Voilà, tout le reste, vous savez beaucoup mieux le faire que moi. Vous avez un super coach, une super équipe pour le faire, un collectif. Mais gardez toujours ces trois choses-là et faites-nous rêver, emmenez-nous très loin.
Emmanuel Macron, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Jérôme, toi t'as vu passer des politiques quand t'étais en équipe de France. Comment ça, les joueurs s'en foutent, non?
Enfin, en toute honnêteté. Bon, après, quand le président de la République vient, bien sûr qu'il y a un respect. Et puis,
oui, c'est un peu solennel, mais enfin,
oui, ce soir, t'es honoré qu'ils viennent. Après, les discours, voilà, ils se sentent presque obligés de faire un discours pour essayer de motiver, pas motiver les troupes, mais pour marquer le coup. Faut juste savoir à qui.
En vrai, s'il serait pas venu, on lui aurait peut-être dit pourquoi vous y êtes pas allé. Donc là, il y est allé.
Non, mais c'est sûr. Non, puis voilà. c'est une habitude.
Il me semble qu'il y avait des joueurs de l'équipe de France, à savoir Koscielny et Mandanda, qui avaient participé à ces meetings à Londres.
Exactement.
Il était en campagne.
Ouais, bon après.
Cabaye aussi.
Cabaye aussi.
Il était venu pas participer. Il était venu écouter.
Non, ils étaient venus. Ils étaient montés sur la
scène. Ah, ils étaient montés sur la scène.
Et Koscielny, ami proche de François Hollande.
Et François Bayrou aussi.
Puisque la fibre corrézienne.
Oui.
Non, mais après, ça t'empêche pas
d'avoir. C'est un peu bizarre d'aller quand même à un meeting de Macron en étant ami avec François Hollande.
Ouais, alors pourquoi? Au contraire, c'est une ouverture d'esprit. Bien, pourquoi?
Si t'es ami avec François Hollande et que tu montes sur la scène dans un meeting de Macron.
Écoute, j'ai connu personnellement pas mal de présidents. C'est même s'ils sont pas du même bord.
C'est la question. Non mais Jérôme, le problème c'est que il faut regarder autre chose que le foot. Regarde autre chose que le foot et intéresse-toi à la vie publique. Tu verras que c'est un peu antinomique d'être ami avec François Hollande et d'aimer Emmanuel Macron.
Il aurait pu ajouter à la fin du discours, s'il vous plaît, faites une bonne Coupe du Monde, allez loin, comme ça j'aurai un été tranquille. Parce que c'est sûr que s'il y a victoire à la fin...
Il n'aura pas un été tranquille.
J'ai participé à un débat sur BFM TV il y a quelques minutes, sa cote de popularité est au plus bas ces jours-ci là. Donc la Coupe du Monde peut lui servir à remonter sa cote de popularité.
Je pense pas.
Ça a été le cas pour Jacques Chirac.
Mais ça n'arrivera pas.
Quand la France a gagné. Bon.
Le calendrier des réformes, c'est tout à fait logique.
Ouais, mais Jacques la Coupe Chirac, du Monde. Si la France gagne la Coupe du Monde, la réforme de la SNCF, tu vois,
bon, ça fait du bien à Jacques Chirac parce qu'il connaissait super bien le football aussi.
Bien sûr.
Cela dit, les trois derniers présidents, ils connaissent le foot. Tu peux pas. Hollande, il connaît super bien le foot. Sarko, il est à bloc.
Ah, Sarko, il est là. Hollande, Macron, il se cache pas. Aussi, c'est un vrai supporter de l'OM. Non, mais bon, ils aiment le foot. Jacques Chirac aussi aime le foot. Ah, il aimait.
Messieurs, premier avis du soir, on va revenir au terrain cette fois. Jingle Rotten.
T'as pris du retard en maquillage.
Eh ouais, écoute, là, mais à me maquiller, je suis prêt pour aller au Bois de Boulogne.
Bah non, t'es bien ce soir.
Non, très bien. Bon. Ma maquilleuse préférée qu'elle a aujourd'hui.
Oui, c'est une alsacienne.
Très gentil.
Alors, on a un tableau révélé hier qu'on va revoir sur BFM Sport, et ça part de là ton avis ce soir qui montre que l'équipe de France, si on cumule les âges moyens des Bleus et le nombre de sélections, fait partie des plus inexpérimentés de la Coupe du Monde avec les Nigérians et les Anglais. Est-ce que c'est un problème, Jérôme? C'est ton avis du soir.
Écoute, ça aurait pu être un problème s'il y avait très peu de sélections, des joueurs qui composent, on va dire, l'équipe type, l'ossature de cette équipe de France. Alors, je me suis amusé à faire plutôt...
26 ans de moyenne d'âge, les Français.
Ouais, là, je m'en fous. Moi, là, l'âge, c'est une mauvaise,
Tu
gagnes pas une compétition, que ça soit n'importe laquelle, la Coupe du Monde, la Champions League et tout, avec l'âge, pas parce que t'as une moyenne d'âge de 28, 30 ans que t'as plus de certitude de gagner une grande compétition.
Sauf qu'à 26 ans, personne n'a jamais gagné une Coupe du Monde.
Non mais, de toute façon, il y a combien de nations déjà qui en ont pas gagné, et des nations qui en ont pas gagné depuis longtemps, et donc forcément les joueurs ont un palmarès néant à ce niveau-là. Et il y a pas que les Français, je suis désolé. Donc ça c'est une fausse excuse. Et en plus de ça, donc ce que je te disais, c'est que je me suis amusé à faire l'équipe type plus ou moins de l'équipe de France. Donc si tu pars avec alors tu t'es à un ou deux joueurs près, mais on connaît l'ossature de l'équipe. Si tu pars avec un milieu de terrain Kanté, Matuidi, Tolisso, qui est rajeuni un peu, du moins qui apporte un petit peu son inexpérience en termes de cap. Si tu rajoutes Pogba, bien sûr que ça va augmenter le nombre de caps. Tu prends Varane, Umtiti, il commence à en avoir. En fait, sur l'équipe titulaire, c'est quasiment une trentaine de sélections de moyenne. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? 30 sélections, c'est pas non plus un joueur qui a deux sélections.
Oui, mais c'est pas non plus comme en 98 et d'autres années. Mais pas des joueurs qui en ont 60.
Mais je sais pas moi, entre 30 et 60, ce que je veux dire c'est qu'il y a un cap à passer. Quand tu as sur tes premières sélections, bien sûr que tu as beaucoup plus de pression, tu as du mal à gérer certaines grandes compétitions, certains grands matchs. Ouais. Paraît logique, la pression est supérieure, ouais. Tu joues au niveau international, c'est pour ça qu'il y a vraiment un cap entre le très bon niveau en club, même la Champions League, et jouer avec son équipe nationale. C'est un cap qui est pas facile à passer, et même des grands joueurs n'arrivent pas à passer ce cap-là. Mais après, une fois que t'as habitué aux sélections, je peux dire que tu l'appréhendes d'une autre façon, les grands rendez-vous. Donc, au bout de la 15e, 20e sélection, je veux dire que la pression, la mauvaise pression, la pression négative, comme on me dit, tu la laisses de côté, tu sais préparer tes matchs. Après, ça veut pas dire que t'es sûr d'être bon. Mais de ce côté-là, tu seras pas en inexpérience. Donc, sur l'équipe titulaire, de l'équipe de France, et même, je te rajoute, l'ensemble du groupe, franchement, on n'a rien à envier à beaucoup de nations. Après, oui, il y a aucun joueur qui est champion du monde. Eh oui, on a gagné qu'une fois la Coupe du Monde quand même, c'était en 98. Ouais. Donc c'est sûr que la plupart étaient
quasiment en fait.
Ben je voulais en venir que tous ces débats là sur l'inexpérience, la jeunesse et tout ça, c'est un défaut débat. Pour gagner une grande compétition, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une ossature, un collectif très fort, et il faut dans ce collectif des joueurs leaders qui soient à leur meilleure forme.
D'accord.
Et c'est comme ça que tu gagnes les grandes compétitions. Après que t'aies 30, 50, 60, 100 sélections, on s'en fout.
Là, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu penses quoi? Tu penses que les Bleus peuvent gagner la Coupe du Monde?
Je pense que ça serait une fausse excuse d'accord. d'entrée de dire qu'on est trop jeune. Okay. Donc, cette jeunesse, cette inexpérience, on ne peut pas gagner. Ouais, non, ça sera pas ça l'excuse. Si on gagne pas, ça sera autre chose. Que les adversaires déjà sont plus forts, parce que je pense qu'on n'est pas favori de cette Coupe du Monde, qu'il y a deux trois favoris logiques dans cette Coupe du Monde. Tout le monde le dit, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, ça c'est les trois qui sont au-dessus de toutes les autres équipes. Après, bien sûr, t'as un autre groupe derrière où là on est dans ce groupe-là et que on peut essayer de perturber le trio de devant. Voilà, c'est tout. Je voulais en venir à ça. Donc arrêtez avec cette excuse de jeunesse, d'inexpérience. C'est totalement faux. La preuve, je te dis, 30 sélections de moyenne pour l'équipe titulaire.
Par exemple, Griezmann.
Jonathan, est-ce que t'es d'accord avec Jérôme?
Sur le fond, oui, mais sur la conclusion, moi, il y a juste quelque chose qui me chiffonne, c'est, je suis d'accord que l'expérience n'attend pas le nombre des années, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qui manque dans cette équipe, à mon sens, c'est qu'elle manque réellement de vrais tauliers, de joueurs qui sont capables de remobiliser on va connaître des moments difficiles, quand le groupe sera dans le dur, quand tu seras mené 1-0, qu'il restera 15 minutes à jouer, je vois aucun taulier. Et là où, du coup, je suis peut-être un petit peu moins d'accord avec toi, c'est que je vois des joueurs dans cette équipe qui auraient le caractère et la qualité pour devenir des vrais tauliers de cette équipe. Je pense notamment à Corentin Tolisso, qui a la personnalité, qui a le vice, qui est roublard, qui a la position en plus de jouer au milieu de terrain pour être un taulier de cette équipe. Mais malheureusement, voilà, c'est trop tard. C'est encore trop tôt. Il a pas fait de Coupe du Monde. Il a même pas une dizaine de sélections. Ça me chagrine un petit peu.
Damien, ton avis?
C'est sûr qu'il va falloir un apprentissage express de la plupart des joueurs de l'équipe de France. C'est sûr que l'insouciance qu'on a devant, notamment avec un Kylian Mbappé ou un Ousmane Dembélé, il faut que ça devienne une force et non pas que ce soit un fardeau. Donc leur jeunesse justement doit apporter au groupe une certaine
Dembélé
fraîcheur.
Pour l'instant.
Mais comme c'était le cas avec Ribéry en 2006 où il arrivait, il n'avait pas beaucoup d'expérience internationale.
Il est entouré,
mais justement, alors c'est là où peut-être qu'il va falloir des leaders, comme tu le disais, dégagent. Mais je vais revenir sur une absence qui est super préjudiciable, c'est l'absence d'un Koscielny, lui était un vrai taulier. Et maintenant à voir, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se révéler justement au fur et à mesure de cette compétition, qui vont prendre confiance, notamment parmi les noms que tu as cités, même Matuidi par exemple, et qui je pense peuvent être la locomotive et puis entraîner tous ces jeunes
profil
derrière.
De taulier Griezmann,
oui,
taulier,
mais pas sur par
mais
l'exemple
pas leader.
Matuidi, taulier.
Non mais est-ce qu'il est titulaire?
Non mais de toute façon,
c'est un leader technique. Griezmann,
franchement, la colonne vertébrale.
Considérons-le comme un taulier.
Non mais comme toutes les équipes, la colonne vertébrale d'une équipe, elle doit être très solide dans tous les cas. Donc si elle est bancale, cette colonne vertébrale, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux y arriver, Gilbert? Il faut que le gardien, déjà à commencer par Lloris, qui est le capitaine de cette équipe, soit exemplaire. déjà à son poste, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps, c'est sûr. Que lui soit exemplaire et rassure sa défense. Après, on a quand même Umtiti et Varane. Alors ouais, moi je veux bien souvent, hein. Souvent avec Daniel à juste titre on les compare, on dit Tintin et Milou, voilà, et Tintin il est pas là, et donc il y a deux Milou. Oui, je veux bien, mais au bout d'un moment, tu dois prendre les rênes de l'équipe nationale. Donc il y a, et je suis d'accord avec Damien quand il me dit Koscielny qui avait plus ce rôle-là d'être le taulier, l'aboyeur derrière, le mec qui aime bien être dans les duels, qui apporte cette grinta. Il est pas là. Aujourd'hui, Umtiti peut très bien se révéler à ce poste-là. Il a une chance. C'est sa première chance de lui pour être titulaire d'une grande compétition.
C'est simple, hein, le pouvoir il se donne pas, le pouvoir il se prend. Mais donc il y a des joueurs dans cette équipe qui doivent prendre le pouvoir. Et quand je lis,
peut le prendre là pour toi.
Quand j'ai une interview cet après-midi de Pogba, lui il veut qu'on lui donne, on veut qu'on lui donne tout.
C'est ça le
problème. Il faut prendre le pouvoir. Donc et un Samuel Umtiti. Pour moi, aujourd'hui, il doit montrer un exemple.
Il y a d'autres joueurs qui ont ce profil-là. Je parlais de Tolisso, mais bon, même s'il est pas titulaire, Lucas Hernandez, il a un sacré caractère.
Il vient d'arriver, lui.
Il vient d'arriver. Il a le profil, tu vois. Je me rappelle son premier match en Ligue des Champions.
Il a le profil, mais il a pas le poste. Et tu sais très bien qu'il y a des postes dans le football.
Mais c'est pas un taulier sur le terrain.
C'est un taulier de vestiaire. Il a toujours été
un taulier de bus.
Ouais.
Et de hiking. Ouais.
Le bus, on pourra en reparler hein, de ça. On n'est pas revenu. Un jour, je ferai un avis tranché sur la réponse de Domenech là suite à vraiment le discours 8 ans après. C'est quand même un scandale ce qu'il nous a fait ami Raymond Domenech. Mais ça, c'est pas d'actu. Ouais, ouais. Mais là, je pourrais bien le charger demain. Et pour te parler de Patrice Evra, c'était un leader de vestiaire sans aucun doute, mais pas sur le terrain. Ouais. Du moins sur le terrain, c'est vraiment les postes qui sont axes.
Mais bon,
l'axe est essentiel.
C'est un défenseur axial, je t'en parlais, c'est un défenseur axial à la base. Hein.
Qui?
Hernandez.
Oui, mais là, il est de son côté, on est d'accord.
Allez, JB, là, au 32-16, je viens de donner son point de vue. JB, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut JB.
Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ou pas?
Pour l'histoire de l'expérience?
Ouais.
Moi, je pense que c'est pas forcément un critère très important, parce que l'Allemagne, je crois, qui gagne la Coupe du Monde 2014, n'était pas très vieille.
28 ans de moyenne d'âge, les Allemands.
Oh, ouais, mais il y avait des sacrés tauliers, hein.
Oui, je suis d'accord.
Klose, Müller, ça va.
Il y avait des Coupes du Monde. C'est de partir dans un projet, d'aller au bout du projet. Je trouve que Deschamps, il tatillonne trop, enfin, il change tout le temps de compo, alors que je pense qu'il avait trouvé un bon truc avec le 4-4-2, et là, pour faire plaisir à M. Pogba, il revient sur une sorte de 4-3-3 qui me plaît pas trop.
Ouais, toi, t'es plus inquiet par les changements tactiques que par la moyenne d'âge, en fait.
Mais disons que Deschamps, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui aime donner de la force à ses cadres et les mettre dans les meilleures conditions. Donc Griezmann a demandé légitimement de ne plus être tout seul dans l'axe avec deux gars centrés, de jouer avec quelqu'un autour. Donc il avait testé le 4-4-2 qui fonctionnait très bien en match amico, sauf que Pogba, et je pense que c'est ce qu'il dit dans son interview, ne voyait pas jouer dans ce 4-4-2. Il dit, moi, il faut mettre dans les meilleures conditions. Donc Pogba, qu'est-ce qui s'est passé? Deschamps, il a un peu abondé en son sens. Il nous a sorti un milieu à 3 contre l'Irlande et l'Italie, et il a resserré ses 3 offensives, comme ça Pogba peut s'exprimer dans son milieu à 3. Et Griezmann a des gars autour de lui.
Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Pogba va jouer. Hein.
En plus, déjà contre l'Irlande, Pogba il a pas joué.
Ouais.
Donc il est rentré en jeu et que derrière même on était les premiers à dire que le match contre l'Italie, c'était un 4-4-2 en losange avec des attaquants de côté qui rentraient dans l'axe. Donc je vois pas le milieu à 3, il l'a toujours fait dans tous les cas.
JB,
il a pas fait contre la Colombie, il a pas fait dans ces matchs-là.
Après il y a le 4-4-2 en losange et le 4-4-2 à plat. Mais dans le 4-4-2 dans le 4-4-2 à plat, Pogba s'il doit jouer, il va jouer dans les deux numéros 6.
Non, mais il a pas le profil.
Non mais je te dis profil ou pas, il le ferait jouer là. Donc
un losange peut jouer à gauche dans l'axe.
L'équipe de France est la plus jeune de la Coupe du Monde, la plus petite, 1m80 de taille de moyenne, et la plus légère. Pour ça, à la limite, on se
fout. S'il faut aller à la muscu, un peu, c'est important.
Je
quand
donne,
même.
Ouais,
je peux vous dire, en tout cas, ils vont être testés samedi contre les États-Unis parce qu'ils ont quelques gogottes.
Ah ouais,
aux
États-Unis. Connais, toi,
j'en connais quelques-uns, ouais, ça va être.
Ça, c'est la viande avec les stéroïdes dedans.
Exactement. Ça n'a pas marché sur moi. Je suis pas assez.
Ils ont renouvelé l'équipe, là, depuis qu'ils ne se sont pas qualifiés?
Ah, c'était le changement le plus total. C'est-à-dire que là, ils vont affronter une équipe, pour le coup, qui aura, je sais pas, 22 ans de moyenne d'âge, certainement. Avec très peu d'expérience internationale, mais il y a des joueurs qui ont de bonnes qualités, très intéressants. Ils ont vraiment voulu tourner la page des Michael Bradley, des tous ces joueurs-là. Gros échec là-bas.
Ouais, là, Bradley, il a fait 20 ans en équipe nationale, le mec.
Le sélectionneur.
Mais son fils aussi, ouais. C'est la Bradley sélection, quoi. Et là, il y a le fils de Georges Weah. Il joue, hein.
Ah ouais, titulaire, il a marqué d'ailleurs la dernière fois.
Il a marqué, il va peut-être jouer contre la France.
Il y a le fils de Klinsmann aussi qui est gardien.
Mais il paraît qu'il est pas très bon, le fils de Klinsmann.
Ah, là, je sais pas. Bah, son père n'était pas très bon en tant que coach non plus, je crois. En tant que sélectionneur.
Avec l'Allemagne. Rappelle-toi, ça l'a pas fait. Bon, il était en demi-finale avec l'Allemagne.
Excuse-moi, ouais.
Non, mais en tant que sélectionneur des États-Unis, c'est pas un son souvenir.
Il est resté longtemps en plus.
Il avait un contrat en or là-bas.
Tu m'étonnes.
Bon. Dans quelques instants, on continue
de gagner
sur l'équipe de France avec Damien. Et on vous attend au 32-16, bien sûr. Et puis l'Uruguay avec Jonathan. Et puis le basket avec Benoît Boutron, le score entre Le Mans et Strasbourg, Benoît.
Il n'y a pas de match ce soir, Gilbert, entre Le Mans et Strasbourg. Il reste 2 minutes à jouer. Et Le Mans qui mène 75-58.
A tout de suite dans l'After.
RMC, le super football show. L'After Foot, Gilbert Brébois.
Jérôme Rotten, Jonathan McCarty, Damien Périnel, on me dit sur le hashtag RMC Live, mais où est Riolo? À votre avis, il est où? Roland Garros, voyons, c'est quelle question.
Exactement. Non,
franchement, comment pouvez-vous poser la question?
La journée au soleil, c'est clair, il faut qu'il se repose le soir.
Quelques messages qui arrivent sur le hashtag RMC Live. Abdel nous dit, Tolisso doit prendre les rênes, c'est lui qui doit prendre le pouvoir et devenir le taulier de l'équipe de France. D'autres, comme Montana a dit, il faut jeter le taulier dans son club avant de l'être en équipe nationale. Si c'est forcément vrai, ça.
De toute façon, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, automatiquement, quand t'es sur le terrain, si t'as ce rôle-là, un petit peu de leader en toi, tu l'es naturellement en club et tu le seras en équipe de France. Le tout, c'est pas forcer les mecs. Ça doit, c'est.
Faut pas surjouer parce que là, c'est dramatique.
Ah, c'est pire que tout.
Mais surjouer déjà. Et puis, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas le surjouer avec un sélectionneur comme Didier Deschamps. Tu le surjoueras pas parce que lui, il sent les coups. Lui,
c'était le tolier ultime.
Exactement. Donc, il sait qui peut l'être et qui peut ne pas l'être surtout.
Et puis, Raccoon nous dit la cote est folle, mais moi, je vous dis que Rami va prendre la place d'un des deux Milou.
Je trouve pas ça. Hier, je disais ça comme ça, mais c'est même pas en termes de qualité intrinsèque. Évidemment qu'il est loin des deux, que les deux sont meilleurs. Mais il a autre chose. Il a cette capacité à rendre meilleur le défenseur qu'il a à côté, à lui donner un peu plus de calme, à apporter un peu d'expérience et surtout à apporter du calme à toute sa défense.
Mais alors, si tu fais jouer Rami, tu décales Varane de l'autre côté. C'est impossible.
Ouais, c'est ça. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'Hernandez joue dans l'axe.
Ah ouais, non, mais toi, tu me sors des conneries.
Il y a dans l'axe, il est super fort. Il y a
Alors, dans ces cas-là, et pourquoi t'as pris Kipembe?
Mais toi, tu raisonnes.
C'est un fantasme, c'est ton fantasme.
Non, oui, voilà. On est un non sélectionneur.
Ah, d'accord, c'est ton fantasme.
Moi, ça fait des années que j'aurais aimé le voir dans l'axe.
Deux, trois infos Coupe du Monde avant que. Ah, c'est fini au basket, Benoît. Score final entre Le Mans et Strasbourg.
J'ai mal à mon Strasbourg, Gilbert. Défaite 80-60 des Strasbourgeois.
Faut pas être bon partout.
Et ouais, du coup. C'est Le Mans qui mène 2-1.
Le champion de France de waterpolo.
Ah ouais, écoute, ce sera peut-être pas le cas en
c'est
basket.
Bien, bravo.
Parce que ça fait 2-1 du coup pour Le Mans dans cette demi-finale de Jeep Elite. Le Mans qui aura l'occasion d'ailleurs de se qualifier pour la finale jeudi. Ça sera le match 4. Ça sera toujours à Antares. Donc, belle opération des Manceaux face aux Strasbourgeois.
2-3 infos Coupe du Monde. Merci Benoît. Glick quasiment forfait pour la Pologne. Ouais. Ça, c'est un vrai coup dur. La Pologne, ça pourrait être un outsider intéressant pour aller loin. Hein. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais ils ont
Déjà, ils perdent Glick.
Là, ils perdent Glick. C'est un coup dur. En fait, lésion au niveau d'un ligament de l'articulation acromio-claviculaire, donc l'épaule.
J'ai eu ça, fait super mal. Je peux plus bouger. C'est un.
Bah voilà. Donc le président de la Fédé polonaise dit plusieurs semaines d'arrêt. Dur. Donc, voilà. A priori, pas encore forfait officiellement, mais normalement, ça devrait l'être.
Il faut faire des infiltrations, ça soulage. Mais.
Alors, Iniesta, lui. Alors, il est aussi bizarre, Iniesta, ces temps-ci. Alors, là, il dit, j'exclus pas de continuer après la Coupe du Monde en équipe d'Espagne. Même si je vais au Japon. Bon, parce qu'il sera toujours sélectionné après. Il dit, ça devrait être ma dernière compète, mais j'exclus pas de continuer.
Ouais, tout, ils ont tellement de ressources en plus à ce poste-là que ça va retourner la page.
Je vois pas le sélectionneur faire appel à... Bon, après, ça, tout dépend, c'est pareil. S'ils sont champions du monde, je pense qu'il partira sur ce titre-là.
Pourquoi il y a des choses comme ça, Iniesta? Il a l'air tellement intelligent pourtant. Je trouve ça dommage qu'il fasse des déclarations un peu comme ça.
Et il a du mal à décrocher peut-être.
Ouais.
Il veut pas l'annoncer avant.
Il avait dû boire trop de son vin là. Il produit du vin de mauvaise qualité apparemment. C'est de la piquette.
Ça tourne la tête. Avant.
Ouais. Voilà. Et puis sinon, l'Iran, première équipe à arriver en Russie. Les Iraniens sont déjà sur place.
Chez leurs amis. Peut-être la première à partir.
Peut-être. C'est pour ça qu'ils sont venus.
Ils ont profité.
Ils vont rester. C'est des potes. Iran-Russie, c'est des potes.
Attention, Damien. Toi, tu veux nous parler de ce qui se passe en ce moment, parce que quand tu vois les matchs qui se passent bien, un peu l'engouement général et tout, tu te dis...
Ne soyons pas bons trop tôt.
Ah, mais pourquoi? Si on est bon, on est bon.
Mais pas forcément, c'est pas forcément un gage de réussite dans une Coupe du Monde en tout cas. On peut voir lors des précédentes Coupes du Monde. Voilà, faut pas être trop rapide avec les femmes. Non, mais quand on voit les Coupes du Monde, je suis remonté jusqu'en 82 avec l'équipe de France tout du moins, et quand on voit la campagne des matchs amicaux en 82, en 86 où c'est
même en 98.
Mais en 98 où on va faire 2-2 contre le Maroc au tournoi de Casablanca Voilà, on se dit que les matchs amicaux, il faut y attacher une importance relative.
Ouais, il y avait un match pourri en Finlande aussi avant 98.
Mais au Maroc, t'imagines.
Il y avait ça, mais en 86.
Tu penses qu'ils ont bien préparé le match, la mise au vert?
C'est qu'en 86, ils vont au Mexique. Ils vont au Mexique et ils perdent quand même contre une équipe du championnat mexicain. Ils font un match nul contre les espoirs mexicains avant d'entamer cette Coupe du Monde.
Ah oui.
Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, une Coupe du Monde, même si j'en ai pas joué, je l'observe un peu, ça se construit.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je dis ça se construit, c'est-à-dire, voilà, il y a les crescendo. Si on fait un premier tour pourri, c'est pas grave, mais en plus avec les jeunes joueurs comme on a, ça leur fait de l'expérience et en fait la confiance grandit et
avec les victoires.
Avec les victoires
et les mais t'as pas tort, en 2008, on gagne les matchs préparatoires. Je me souviens quand des équipes sud-américaines, à chaque fois c'était Paraguay, Équateur, tout ça. Et moralité, premier tour en 2008. Cata total, au revoir dehors.
Et on peut aller même en 2006. Hein. C'est-à-dire on fait un premier tour catastrophique en 2006 et avec les Zidane, Makelele, Thuram.
Contre la Corée du Sud à l'arrache.
Contre le Togo.
Contre le Togo.
Tu fais nul contre la Corée. Et ensuite t'as un match déclic qui déclenche tout, le match contre l'Espagne. Et là tout de suite c'est parti.
Ouais, alors,
et
il y a l'engouement. T'as des cas de pré-Coupe du Monde complètement ratés. 2010, rappelle-toi, tu perds contre l'équipe B de Chine. Hein. Ouais. Et derrière,
Coupe du Monde ratée.
Et 2002, rappelez-vous aussi, ça avait été compliqué. C'était la Belgique, la Villemotte, c'est tout, qui vient gagner au Parc des Princes.
Ouais. Mais là, ils étaient en tournée, c'était les Rolling Stones qui étaient...
Ouais, c'était Franck Leboeuf, Manu Petit,
tout ça. Non, mais donc tout ça pour la vie tranchée, voilà, ne soyons pas bons trop tôt, c'est pas un gage de réussite. Donc quand je vois... Les résultats contre l'Italie, bien sûr, on a fait un match correct contre l'Italie. Bon, c'était pas non plus la grande Italie, mais
faible.
Ne pas s'enflammer et c'est pas pour ça qu'on va gagner la Coupe du Monde. Voilà.
T'es d'accord?
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est toujours pareil. Alors, on peut prendre des exemples pour remonter en arrière sur pas mal de Coupes du Monde. Je pense que de toute façon, les compétitions, elles se ressemblent pas. Et
ouais, bien sûr.
Et que quand tu prépares une Coupe du Monde, même si tu sais pas ce qui va arriver, vaut mieux le préparer avec une bonne dynamique, avec de la confiance. Surtout quand t'as des jeunes joueurs, comme on le disait juste avant. Alors, même s'il y a, ça pour certains, pas mal d'expérience. Mais quand t'as des jeunes joueurs, par exemple, je prends le cas de Dembélé. Dembélé, s'il était passé à côté de son match contre l'Italie, Pogba est passé à côté de son match contre l'Italie, on en parle encore aujourd'hui parce que ça fait la une des journaux, ça fait des débats, il fait des interviews.
Bah, si
oui aussi, non mais même avant l'interview, je suis désolé, mais après le match, tout le monde, voilà, et exactement. Donc je pense que Pogba il s'en serait bien passé, il aurait préféré être bon contre l'Italie. Hein, pour faire taire toutes les critiques. Dembélé, s'il avait été tout le match, comme son début de match, même à la mi-temps, moi j'ai fait le débrief sur BFM, où certains déjà lui tombaient dessus en disant bah ouais mais bon là c'est au niveau international avec les Italiens, c'est pas facile, hein, beaucoup de déchets. Hein. À la deuxième mi-temps, il a fait taire un petit peu les mauvaises langues. Il est monté en puissance et je pense que ce match-là lui a fait du bien. Il est sur une bonne dynamique et l'équipe de France est sur une bonne dynamique. Après oui, là où je te rejoins, c'est qu'il faut pas tomber dans l'euphorie non plus. C'est pas parce qu'on a gagner contre les Italiens qui sont en totale reconstruction et puis qui eux sont débarrassés d'une grande compétition parce qu'ils sont éliminés, que ça y est, il faut s'enflammer. Je pense qu'il faut continuer à monter en régime au niveau physique déjà, parce qu'il y a quand même une préparation,
oui,
derrière,
bien sûr.
Et que la préparation est faite pour être vraiment au taquet sur le premier match et pas le match de samedi contre les États-Unis. Mais après, voilà, oui, c'est comme le premier tour. Didier Deschamps, je pense que si tu lui dis aujourd'hui, il préfère gagner les deux premiers matchs haut la main en répétant son football pour déjà donner du temps de jeu au coiffeur. Mm-hmm. Et pour que son groupe vive bien ensemble encore
une il y a aucune corrélation. En fait, il y a pas de corrélation, c'est juste les exemples que tu as cités. Oui, bien sûr, mais je pense que comme Jérôme l'a dit, enfin, c'est beaucoup mieux d'arriver avec quand même quelques certitudes, quoi. Tu peux pas à la limite faire exprès de perdre par superstition et dire
ce que je veux dire par là, c'est que tu sais que quand tu commences un match ou une compétition, quoi qu'il arrive, si tu dans ta tête tu te dis on a une équipe, c'est sûr, on a une équipe pour aller en finale, et puis ça va bien se passer. Mais t'es sûr de te rétablir?
Et
c'est-à-dire que quand je vois là les performances, on voit donc un Ousmane Dembélé qui est virevoltant en deuxième mi-temps, un mec comme Mbappé. Mbappé, c'est football, ça sent le foot dans tout ce qu'il fait, dans tous ses gestes. Voilà, c'est-à-dire, faut pas. C'est des joueurs qu'il faut qu'ils abordent cette compétition en ayant ce petit doute en eux lors du premier match, et que ensuite, c'est peut-être par le doute.
Ça vaudrait en fait, si c'était avec des sénateurs.
Change en confiance. Se transforme en confiance. Et ensuite, en effet, sur un deuxième tour qui est un match déclic, où là, on voit.
Contre l'Argentine en 8e.
Là, c'est costaud. Ouais, c'est possible. Et là, ils sont prêts pour aller au bout, les mecs. Voilà ce que je veux dire.
Ouais.
Moi, je suis assez d'accord.
Ouais.
Je trouve qu'il est convaincant.
Je trouve que c'est valable si les joueurs sont des sénateurs qui se seraient installés dans une espèce de confiance, type Pogba par exemple. Tu vois le profil du joueur qui a quand même un petit peu de bouteille et qui a tendance à prendre la tête un peu grosse. Mais pour des joueurs, on a des joueurs qui ont besoin, tu vois, d'enchaîner les victoires. Justement, Jérôme parlait de Dembélé, Mbappé, c'est des joueurs, enfin, c'est des puceaux au niveau international. Donc, je trouve que c'est bien mieux pour être gagné, quoi, d'avoir cette confiance-là et d'arriver plein pot.
Pierre est là au 32-16. Salut Pierre.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Pierre, t'es d'accord avec Damien? Faut pas être bon trop tôt.
Bah moi je pense qu'il y a une petite phase de poule à l'arrache où on se qualifie, on est obligé de gagner ou de faire un match nul sur le dernier match pour passer. Ça peut lancer justement le reste de la compétition, un peu comme en 2006. Tu te qualifies à l'arrache dans l'adversité et puis après ça soude un groupe, quoi. Ça peut souder un groupe pour ensuite franchir les étapes. Justement après il n'y a pas de retour, hein. C'est sur un match. Donc si t'arrives un peu trop confiant sur le match décisif, ça peut être aussi un piège, quoi. Ouais. Après tout dépend. Si tu prends l'Argentine en 8e, t'as pas intérêt d'être confiant. Mais
si tu prends l'Argentine en 8e, c'est déjà qu'il y aurait eu un problème pour l'une ou l'autre des deux équipes. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont pas été premières.
Il y en aura une des deux qui aura fini deuxième.
Ouais. Bah, la logique, ça serait que l'Argentine finisse deuxième.
Bah, par rapport à ce qu'il nous a montré. En ce moment, ouais.
Bah
tout
oui.
À fait. Non mais oui, bien sûr. Jérôme, bien sûr.
Aujourd'hui, après, il y a des grands joueurs en Argentine. Attention, je respecte. Mais à l'arrivée, regarde, qu'on parlait de crescendo, de confiance. Franchement, vaut mieux aborder un mondial avec la confiance des Français plutôt que la confiance des Argentins.
Ils ont rien.
Parce que eux, ils sont dans l'adversité depuis un bon bout de temps. Mais je sais pas.
C'est
quand
même
ils
pas
vont
dans l'adversité qu'ils sont. C'est dans le flou total.
Ouais. Non mais c'est pour ça. Donc, avoir certaines certitudes, c'est bien aussi. Ouais, après, il faut. C'est moi. Je pense que les joueurs, bien sûr que moins d'être dans le confort, mieux c'est. Je te dirais parce que là, tu te remets en question plus facilement. Mais faut arriver quand t'es un joueur de haut niveau à te remettre en question.
Il y a pas de règle.
Non, mais quand tu fais des bonnes pertes.
Regarde 2004, t'es tir 2004.
Non mais
vous renversez l'Angleterre. Premier match.
Non mais
tu te dis.
Non mais c'est différent parce que toi
après,
tu dis de l'extérieur. Non mais toi tu te dis de l'extérieur. Moi j'étais à l'intérieur. Donc je sentais pas un groupe uni. Je sentais pas un groupe qui avait soif de victoire. Là je le sens avec l'équipe de France et tous les échos que j'ai, que ça soit des joueurs dans le groupe ou pour en avoir parlé avec le sélectionneur ou son staff avant qu'ils soient en préparation. Tu sens qu'il y a une base qui est très solide et qu'ils ont envie d'aller chercher quelque chose. Alors je te dis pas qu'ils vont y arriver, mais au moins ils vont pas prendre de haut certains matchs.
Non, ça,
je pense qu'ils vont respecter tout le monde. Et pourquoi ? Parce que à la base, t'as encore une fois t'as un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le sélectionneur. C'est lui qui doit instaurer ça dans le groupe. Après, il préfère que ses joueurs soient en confiance et fassent des bonnes prestations sur le terrain. Et t'en fais pas, qu'il saura leur rappeler, même quand ils sont bons, que attention, il a oublié de faire ça.
C'est lui, hôtelier de l'équipe.
Exactement, ouais. Mais si t'en as pas, lui, ouais, au moins, lui, Guy Stéphan et son staff.
Il a un charisme.
Là, vous parlez de 2006.
Deschamps, il a tout connu, en fait. Il a connu la Bulgarie 93 où la France était au fond du gouffre, complet. Et il a connu la remontée jusqu'à 98 et 2000. Donc, lui, il sait ce que c'est de passer pour les plus nuls du monde. Parce qu'à cette époque-là, en 93, on était encore moins bon que Chypre et Israël.
Ouais. En plus, excuse-moi Damien, mais pour finir, moi j'en ai marre qu'on compare à 2006. Ah, mais comme en 2006, il faut qu'on soit en difficulté sur le dernier match pour l'arrache pour après. Règle, bon. Mais attends, en 2006, il y avait quoi? Qui c'est qui était le chef de bord?
Bah, Zidane.
Non, ouais, non, mais tu as vu le lapsus, ouais, voilà. Zidane. Non, c'est Raymond Domenech, normalement, qui est là. Mais vu qu'il l'écoutait quasiment plus et que les chefs c'était les Tauliers, c'était les Makelele, les Vieira, les Zidane,
les Thuram encore.
Exactement, et ben c'est eux qui ont pris le truc en main. Là franchement, on a peut-être moins de joueurs. C'est même sûr, on a moins de joueurs de cette trempe-là, si tu veux, dans l'effectif France. Mais par contre, on a un vrai chef de bord. Et donc, arrêtez de nous comparer avec 2006.
Deschamps, tu l'as vu, je pense pas qu'avec Deschamps, ça soit possible de prendre la grosse tête, d'être en confiance.
Bah, si tu la prends, il va essayer de te la dégonfler plus vite. Après, il n'y arrive pas sur tout le monde, attention. Ouais. Il a fait des choix. S'il y a des joueurs qui se sont écartés ou qu'il a pas pris, c'est aussi parce qu'ils allaient pas dans ce mode de fonctionnement. Par contre, pour finir, le cas de Paul Pogba que tu parlais, c'est vrai que je pense qu'avec Paul, il ne le lâche pas. Il a peut-être du mal à le gérer de temps en temps. La preuve, c'est que Paul n'arrive pas encore à montrer la plénitude de son talent sur le terrain. Et je pense qu'il cherche. Il ne veut pas le lâcher, c'est tout. Il a bien raison, parce que c'est un joueur de talent.
Voilà, et puis Cass nous dit, t'as raison, pas de règle. L'Espagne a perdu son premier match en 98. Et puis hop, à la trappe, Paris en 2010, et hop, champion du monde.
Contre la Suisse, ouais.
Contre la Suisse.
Ouais. Toujours dit que c'est à la fin du bal.
Quand pas les musiciens.
Non, qu'on part avec la plus moche.
Joli.
Ça sent l'expérience.
Jérôme, il connaît bien ça.
Non, parce que là, j'avais eu mettre un carton rouge. Toujours à la fin du bal. Ouais, et même avec Gilbert, il était à la queue, a dit, oh là, tu vas dégager, deux minutes.
Et non. Ah, ça te fait rire, ça.
Parce que toi, tu connais, je pense à toi, Jérôme. J'ai de la compassion pour toi.
Ça, c'est pas une blague de New York, c'est une blague de Boulogne-sur-Mer. C'est le jeu pour sur mer aussi.
Ah, exactement.
Toi, tu t'attardes trop sur l'apparence physique.
Et ça arrive souvent là-bas.
Ça, je peux pas changer les moyens.
Même en début de soirée.
Creuse un peu, tu verras. Ça te fera du bien.
Ah, pas changer les moyens,
ouais, mais ça te ferait du bien.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jonathan Lacardière, Jérôme Rotten est là, Damien Périnel est là. Alors pour ceux qui redécouvrent Damien, ancien joueur de Boulogne et de Clermont et surtout des New York Red Bulls, ça fait plus classe que Clermont et Boulogne, ouais, faut bien le dire. En région parisienne, t'as joué aussi?
Ouais, je fais un Créteil.
Créteil, magnifique.
Ouais, la plus grosse influence de ma vie à Créteil.
Ah bon? Créteil, c'est allé à combien? C'est à 1005, 2000?
Ouais, entrée payante. Payante, c'est 300, je pense.
Et offert par la mairie, 1000.
Voilà, après, ouais, c'est ça.
Ils sont descendus d'ailleurs, la Créteil, là. Ils sont plus en national. Hein.
Ouais, ça va. Ouais, en fait, tes anciens clubs, je réfléchis, Boulogne-sur-Mer, c'en est où?
Ah, c'est normal, dès que je pars, ils plongent.
Mais c'est ça, Boulogne-sur-Mer, Créteil.
Ah, si, il y a Clermont encore qui est en Ligue 2.
Clermont, ils se maintiennent.
C'est ça.
En fait, à part Créteil, t'as fait des belles régions, donc ça, c'est bien.
T'as des touches là? T'as des trucs en vue ou pas trop?
C'est en stand-by.
Fais ta promo là, vas-y.
Bon.
Non, moins un an dit, mieux on se porte.
Ah bah attends, je sais pas, Damien Périnel, expérience internationale, bilingue, 1m90.
87.
87, pardon.
On triche pas.
Combien de matchs en pro?
Ah ouais, non, affûté, là, je sais pas.
Affûté, bien.
Ouais, ça va.
Pas cher, t'es pas cher.
Ah oh, non, moi, c'est plaisir.
C'est projet sportif.
Oui. Plaisir. Exactement.
Moi, c'est mon leitmotiv toute ma carrière.
Bien sûr. Exactement.
Bien sûr. Surtout quand t'es allé en Caragoutchou.
Ah, encore plus en Caragoutchou. Ça, t'aimes bien la sortir.
Ah, bah écoute, excuse-moi.
Ah, on va pas oublier l'épopée Glasgow Rangers.
Ah, Glasgow Rangers.
En plus, t'as été dans le mauvais club.
C'est pour la météo.
T'as été dans le mauvais club.
Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, le mauvais club?
Lui, Celtic.
Mais non, mais Glasgow Rangers, reprend toi qui es un homme de stats. Regarde les années où j'y suis allé.
C'est le club de la diaspora irlandaise.
Non mais d'accord.
Les Celts.
Mais les Rangers gagnaient tout.
C'est le club protestant, les Rangers.
J'ai joué 4 matchs, 4 victoires.
Tu l'as dit, il était dans la bonne période des Rangers.
Ouais, 4 matchs, 4 victoires. T'as joué 4 matchs, ouais. T'as
bah, contre les Celtics. Et tu joues toutes les semaines contre les Celtics.
Messieurs, on va parler de l'Uruguay. Jingle McCartney.
C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça.
La sérendipité est le fait de faire une découverte scientifique de façon inattendue.
Tiens, ça t'apportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder.
C'est quoi?
Une sorte de mot.
Sérendipité.
Alors, après nous avoir vendu la Colombie et le Pérou, tu veux nous vendre l'Uruguay?
Oui, bah écoutez, moi je pense que l'Uruguay, encore une fois, ils feront partie des favoris dans le groupe élargi des favoris au mondial.
Alors, favoris de la victoire finale?
Au dernier carré. Bah, le dernier carré, à partir du moment où t'es dans le dernier carré,
ils l'ont fait il y a pas si longtemps, tu me diras.
Non, et bah, ils l'ont fait en 2010, et puis ils font huitième dans la dernière Coupe du Monde. Ils font une Copa América centenario désastreuse où ils se font sortir au premier tour. Mais, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Quand on regarde le parcours, de la sélection lors des phases d'élimination de la zone AMSUD, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a toujours le même noyau, t'as toujours cette base avec tous les tauliers, Godin, Suarez, Cavani. Mais il y a eu quand même pas mal de changements et l'incorporation de nouveaux jeunes qui ont un profil totalement différent de ce qu'on avait pu voir auparavant avec l'Uruguay. Vecino, Nandez, Betancourt. Vraiment, on peut dire que le projet d'Oscar Tabarez arrive à une sorte de maturité pour ce qui va être, bah, probablement, il a 71 berges, hein, ça va sûrement être sa dernière Coupe du Monde. Et on peut dire que lui, qui a repris la sélection en 2006, donc qui est là depuis plus de 12 ans, il a mis en place quelque chose qui est vraiment voilà de reprendre en main toutes les sélections à partir des U15 jusqu'aux internationaux jusqu'à l'équipe A. Donc ça inclut quoi? Ça inclut bah de chapeauter toute la direction technique des équipes de jeunes, mais aussi de chapeauter un petit peu leur comportement.
C'est
par exemple.
C'est comme si en France il était DTN et à la fois sélectionneur. Quoi, en fait.
Par exemple, tu vois petite anecdote marrante, c'est que les joueurs en U20 ils doivent en plus suivre des cours d'histoire pour apprendre l'histoire de l'Uruguay et créer une sorte de sentiment commun et d'arriver en sélection en étant transcendé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du détail. Qui arrive au bout de l'histoire avec l'Uruguay, non pas par manque de résultats, mais parce que voilà, il a 71 ans, comme je le disais, et t'as toute cette nouvelle génération de joueurs qui voit un petit peu qui pointe un petit peu le bout de leur nez. Donc, je pense que ce qu'on a vu, c'est que cette élimination un petit peu piteuse au premier tour de la Copa América Centenario, ça a été un petit peu salvateur parce qu'à partir de là, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a commencé à incorporer ces nouveaux jeunes. C'est des jeunes qui sont vraiment assiliants, qui ont vraiment des qualités qu'on n'avait jamais vues auparavant, ou du moins qui est un peu plus discrète dans la construction. Il y a des meneurs de jeu, il y a des ailiers qui sont vraiment très bons, et je pense que voilà, il y a le mélange parfait entre des tauliers qu'on connaît tous, Godin derrière, Muslera dans les cages, Suarez et Cavani devant, et l'incorporation de ces nouveaux jeunes. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'équipe est quand même beaucoup plus joueuse. Alors t'as toujours cette solidité défensive qui est un petit peu leur marque de fabrique, mais à la fois c'est une équipe qui a beaucoup plus de certitude, qui est capable de prendre le jeu à son compte, chose qui n'était pas forcément le cas auparavant, qui joue pas forcément le compte, qui est capable de subir mais qui est capable aussi de prendre le jeu à son compte. Et je trouve que l'Uruguay est beaucoup plus polyvalente qu'auparavant. Donc alors, est-ce que l'Uruguay fait partie des favoris avec au même rang que l'Allemagne, que le Brésil ou que l'Espagne? Évidemment que non, mais dans un groupe élargi d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale, j'y crois beaucoup. Et j'y crois beaucoup aussi pour deux raisons qui sont peut-être un petit peu plus impalpable. C'est que ce sélectionneur-là, le maître Tabarez, après tout ce qu'il a fait avec l'Uruguay, eh ben ça serait quand même bête qu'il parte sur une élimination un petit peu piteuse et sans connaître une vraie épopée lors de cette dernière Coupe du Monde. Et puis t'as toute cette génération de joueurs, Godin, Suarez, etc. Ça va être leur dernière compétition, et je peux pas croire que ces joueurs-là vont pas se fixer comme mission de gagner la dernière compétition qu'ils vont avoir en commun. Donc je pense vraiment que l'Uruguay, malgré tout, ça sera quand même très solide.
23, là, c'est vrai qu'il y a quelques mecs qu'on connaît pas. Hein.
Ouais. Lesquels?
C'est Jonathan Urreta Vizcaya, attaquant de Monterrey au Mexique, par exemple.
Ouais. Meneur de jeu ou ailier, très très bon, qui a une très bonne qualité technique. Mais c'est surtout au milieu de terrain. Ça va être Betancourt qui joue à la Juve, Vecino qui joue à l'Inter, Nandez qui joue à Boca. Ça va être des joueurs qui vont être titulaires au milieu de terrain. Et crois-moi, ça change d'Arevalo Ríos et de Carlos Sanchez. C'est des joueurs qui ont quand même beaucoup plus de ballons et qui, justement.
Après, il y a toujours les vieux, là, hein, les Godin, Coates et compagnie, là.
Coates, il est pas vieux du tout. On parlait de l'équipe de France.
Il est là depuis combien de temps, Coates? J'ai l'impression qu'il est là depuis longtemps.
La dernière Coupe du Monde, mais il doit avoir 25, 26 ans.
Non, mais
on parlait de l'équipe de France où il y avait des jeunes qui étaient très bons, mais où ça manquait de tauliers. Là, tu vas pouvoir incorporer les jeunes avec des tauliers. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on a vu, notamment, alors on le voit à l'écran sur BFM Sport, mais ce milieu de terrain avec Christian Rodriguez, qui lui, certes, est un vieux de la vieille, mais Vecino, Betancourt et Nandez, c'est trois jeunes milieux de terrain qui sont vraiment très bons et qui bénéficient justement du calme que peut apporter un Godin ou un Luis Suarez devant. Donc j'y crois vraiment. Et je pense que ça va permettre peut-être de changer un petit peu l'image d'équipe ultra béton qu'on avait de l'Uruguay.
Vous y croyez, vous, Uruguay?
Bon, écoute...
Jérôme et Damien?
Franchement, alors...
T'as pas vu les matchs, je peux pas savoir.
Mais exact. Alors, écoute...
T'as vu Cavani et Suarez?
Non, mais...
T'as vu Godin?
Moi, bon, Jonathan sait que je regarde beaucoup de matchs, donc je parlerai pas si j'avais pas vu jouer...
Mais je sais, en plus.
Non, mais...
C'est vrai.
C'est... sur le fait d'être favori, non. Pour moi. Alors après, c'est toujours pareil. C'est dans quel groupe de favoris? Pour moi... Tu peux pas avoir 8 équipes favorites d'une Coupe du Monde.
Partie donc, des 5 favoris.
Donc,
à mon sens.
Excusez-moi, j'ai 5, fait
tu
mon
vas
tableau.
Loin quand même. 5 tu vas loin. Moi, où je suis pas, où je te rejoins pas sur le.
Ils vont être premiers de leur poule déjà.
Non mais. Bah, ils vont être premiers, il faut gagner les matchs. Ils ont un groupe
assez. Arabie Saoudite, Russie, Égypte.
Ouais, ils ont un groupe qui est assez simple, on va dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que s'ils se qualifient, ils jouent le groupe B. Le groupe B, c'est Espagne,
Portugal,
Maroc. Voilà.
Exactement.
Donc, le deuxième de ce groupe, s'ils finissent premiers. Donc, c'est vrai que c'est jouable pour arriver en quart de finale. Après, quand t'arrives en quart de finale.
Un petit Uruguay-Portugal, quoi, ce serait la logique.
Ouais.
Ouais, bah, si c'est Uruguay-Portugal.
Uruguay-Maroc.
C'est Uruguay-Maroc.
Bon, le Maroc, ce sera un exploit.
Cette équipe, elle a des tauliers, sans aucun doute, des joueurs de talent. Moi, je reste encore sceptique. Ils ont montré des belles choses, mais la complicité, la complémentarité entre Suarez et Cavani, elle me dérange un peu. Elle me dérange sur certains matchs, franchement, où je trouve qu'ils ont encore du mal à. Quand tu joues à deux points de devant. Comme ça, tu dois avoir une vraie relation. Je trouve que c'est.
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que alors non, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des matchs auparavant, où, notamment dans les deux dernières Copa América, où ils se marchaient un petit peu sur les pieds. Mais là, justement, d'avoir vraiment fait un lifting à son milieu de terrain en incorporant notamment Bettencourt, qui a quand même beaucoup plus de ballons, et d'avoir incorporé Vecino de l'Inter, ça quand même, ça, il y a un vrai mec qui prend le jeu à son compte et ça change quand même pas mal de choses.
Les gars. Stop, dans quelques instants, on va parler philosophie. Eh oui, football et philosophie dans quelques instants. Puis tiens, je vous dirai également comment faire votre petit tableau, votre braquette de la Coupe du Monde sur rmcsport.fr. J'ai fait le mien, je suis arrivé à la finale Brésil-Espagne. Voilà.
Possible.
Manipulez pas ta finale.
A tout de suite dans l'after.
C'est pas mal.
RMC, le super football show, l'after foot.